Il est 11h30, Info Mag, Jean-François Baudin.
Deux discours et un message commun, nous sommes à vos côtés. Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher ont pris la parole devant les élus du Congrès ce matin. Nous y revenons en détail dès le début de ce journal. La préparation de la saison cyclonique en Nouvelle-Calédonie, l'activité devrait être normale à accrue, annonce Météo France Nouvelle-Calédonie. Dans une semaine aura lieu la Biennale de la Construction. Cette année, après les émeutes, elle sera évidemment consacrée à la reconstruction. Un 11 novembre sur fond d'amitié franco-britannique, le Premier ministre anglais Keir Starmer était l'invité d'honneur des commémorations en France cette année. Les bourses mondiales réagissent favorablement à l'élection de Donald Trump et les crypto-monnaies atteignent même des sommets. Et puis en sport, le début du final de la saison de tennis à Turin. Carlos Alcaraz s'incline face à Casper Ruud. Alexander Zverev s'est imposé sur Andrei Rublev. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Et notez que dans le magazine Citoyen, dès la fin de cette édition, nous parlerons cette semaine des jobs d'été. Ce dispositif pour les jeunes reste un succès, même si le contexte cette année est moins propice à la recherche d'un travail estival pour les jeunes. Nous en parlerons avec nos quatre invités. Christelle Kans, qui est chargée du programme Jobs d'été à la Direction Emploi et Logement de la Province Sud. Nathalie de Brugada, responsable de l'espace jeune. Olivier Nicolas, directeur du Bureau Valais. Et Samira Ogui, une jeune femme qui postule pour un job d'été. Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet au pupitre du Congrès. Au deuxième jour de leur visite sur le territoire, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale ont donc pris la parole tour à tour devant les élus et les autorités civiles et militaires qui étaient présentes dans le public. C'est la présidente du Congrès, Velma Falayo, qui a ouvert cette séance solennelle. Elle a remercié les deux présidents pour leur visite sur le territoire, alors que les assemblées nationales sont en session budgétaire. Preuve, selon la présidente du Congrès, de l'intérêt porté par le Parlement à la question calédonienne. Et Velma Falayo fonde beaucoup d'espoir sur la méthode.
Vous réaffirmez aujourd'hui à notre représentation locale et donc à tous les Calédoniens que leur quotidien et le devenir de la Nouvelle-Calédonie constituent un sujet majeur pour la représentation nationale. Je crois fermement, comme vous, à cette méthode de dialogue constant et de conciliation, et je partage également votre volonté inflexible de parvenir à un consensus.
Et après ce discours, Velma Falayo a ensuite passé la parole à Yaël Braun-Pivet, Nicolas Legrand.
Oui, la présidente de l'Assemblée nationale qui a débuté sa prise de parole en citant Victor Hugo. Quand on sort d'un long orage, quand un certain éclaircissement commence à pénétrer dans les problèmes à résoudre, ce que l'on veut, c'est l'apaisement, et elle a fait le parallèle.
Construire un avenir apaisé. Tel est le sens de la mission de conciliation qui nous réunit avec le président Larcher et que nous portons devant vous. Cette mission conjointe est à maints égards historique. Historique car jamais les présidents des deux chambres du Parlement n'avaient uni leurs forces et leur légitimité dans un déplacement commun, en s'engageant ensemble sur le terrain. Et nous tenions à ce qu'une telle mission ait lieu ici, en Nouvelle-Calédonie, sur cette terre de cicatrices et de lumière, pour marquer l'attachement indéfectible que nous portons à son destin commun. À travers notre déplacement, c'est l'ensemble de la représentation nationale qui vient à vous et qui vous témoigne de toute l'attention que nos institutions portent à votre Congrès et à chacune de ses composantes.
Yaël Braun-Pivet qui estime que cette mission de concertation et de dialogue doit être facilitatrice.
Nous ne sommes donc pas venus pour que vous vous reparliez à nouveau. Vous vous parlez déjà dans cette enceinte. Des cercles de discussion se sont formés, réunissant indépendantistes et non-indépendantistes, avançant ensemble sur l'avenir institutionnel. Notre rôle est d'accompagner cette dynamique pour que ces efforts convergent vers un projet commun, porteur de paix et d'unité. Notre objectif est ainsi d'élaborer avec vous une méthode de discussion commune, de définir les points d'accord, mais aussi les points de désaccord, d'identifier toutes les composantes de la société calédonienne à inclure dans nos discussions et d'élaborer une feuille de route que nous pourrions partager pour les semaines à venir. Il s'agit de dessiner en somme les contours d'une future souveraineté qui se conjugue au pluriel et dans laquelle chacun trouve sa place et sa reconnaissance mutuelle.
La présidente de l'Assemblée nationale qui affirme donc que ce sont aux élus calédoniens de trouver les solutions.
Je veux être claire, rien n'est dicté ou dirigé par Paris. Le destin de la Nouvelle-Calédonie est entre les mains des Calédoniens. Vous êtes les garants de ce destin commun. C'est à vous qu'il appartient d'en écrire l'avenir. C'est vous qui tenez la plume.
Un appel à la responsabilité des élus calédoniens avant d'évoquer le choc du 13 mai.
Les déflagrations du 13 mai ont réouvert des plaies anciennes. Le caillou est endeuillé, épuisé, exsangue. 13 vies ont été fauchées, dont celle de 2 gendarmes. Nous pensons à chacun d'eux et à leur famille. Je veux le dire ici avec clarté et fermeté. La violence n'est jamais acceptable, pour aucune cause que ce soit. Les tirs incessants sur les gendarmes, jusqu'à 300 par jour sur la route de Saint-Louis, sont un affront à la paix et à la sécurité de tous. Ils touchent au cœur la population elle-même, des familles entières, des citoyens, des enfants qui n'aspirent qu'à une vie paisible et qui voient leur quotidien rendu impossible. Le tissu humain de la Nouvelle-Calédonie est déchiré. Son tissu économique a subi, quant à lui, un effondrement sans précédent. Je voudrais avoir un mot pour ceux qui n'ont rien demandé. Ceux qui, du jour au lendemain, se retrouvent avec leurs voitures brûlées, leurs commerces détruits, leurs emplois perdus. Certains ont dû quitter leur maison, loin de tout ce qu'ils avaient construit et entrepris.
Yael Brown-Pivet qui assure de son soutien, notamment en ce qui concerne la solidarité nationale.
Nous continuerons à vous accompagner, à vous soutenir. Nous porterons vos voix dans nos assemblées respectives, où le consensus est non seulement souhaitable, mais encore possible. Vous pourrez compter sur mon appui à chaque fois que les élus calédoniens porteront des amendements qui permettront d'alléger le fardeau de ces milliers d'habitants du Grand Nouméa. Le fardeau des communes aussi, qui ont vu fondre de 30% leurs revenus et sont réduites, faute de solutions d'urgence, à abandonner leur politique sociale une à une au moment où elles seraient le plus utiles. Mais je sais aussi que reconstruire l'économie nécessitera tout d'abord de reconstruire durablement la confiance. Et les Calédoniens savent toujours se relever. L'histoire nous le montre. En Nouvelle-Calédonie, c'est quand l'unité semble rompue qu'elle se resserre. Et nous sommes dans un de ces moments.
Yael Brown-Pivet qui a terminé sa prise de parole comme elle l'avait commencé par une citation, celle de Michel Rocard, ce coup-ci au lendemain des accords de Matignon. « Reprenez espoir, une page nouvelle va pouvoir s'inscrire, non pas par les armes, mais par le dialogue et la tolérance, par le travail et la volonté. » Et elle affirmait vouloir y aider.
Et après la présidente de l'Assemblée nationale, c'est donc le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a pris la parole devant les élus, Elisabeth Noir.
« Je connais les positions antagonistes qui vous animent, déclare Gérard Larcher, qui appelle à passer d'une confrontation stérile à une conjugaison vertueuse. Le président du Sénat a commencé son propos en rendant hommage aux victimes des violences de mai et en saluant le rôle notamment des forces de l'ordre et du haut-commissaire avant d'assurer la Calédonie de la solidarité nationale.
Les événements d'une rare violence, et que je condamne, qui se sont déroulés depuis le mois de mai, ont eu pour conséquence, quelque part, d'annihiler 30 années de développement économique et social. Le sursaut de toutes les forces politiques et économiques calédoniennes, bien sûr. C'est ce que ce drame appelle comme premier sursaut. Le sursaut de toutes les forces politiques et économiques. Mais bien sûr, il est également essentiel que l'État soit aux côtés des Calédoniens et de leurs élus à ce moment de leur histoire. Et que la solidarité nationale, Madame la Présidente, vous l'avez rappelé, fonctionne pleinement au soutien de la reconstruction, de l'accompagnement social des Calédoniens, du redressement financier des collectivités et au soutien aux entreprises.
Et c'est une affaire immédiate, ajoute le président du Sénat, puisque le Parlement en parle en ce moment dans le débat sur la loi de finances qui se déroule dans les deux assemblées. Gérard Larcher qui insiste également sur le nickel, qui est, dit-il, un enjeu prioritaire.
Les efforts conduits par l'État pour réorienter la filière du nickel avant le déclenchement des événements de mai n'ont pas été couronnés de succès. Sans chercher à dramatiser, il faut garder à l'esprit que sans une prise de conscience et un rebond rapide, cette crise du principal poumon économique risque d'être celle qui fera disparaître l'industrie métallurgique calédonienne, menacée par une concurrence internationale plus forte que jamais. Toutes les énergies calédoniennes du Nord et du Sud doivent converger avec celles de l'État pour donner un nouvel élan et une ambition renouvelée à cette industrie du nickel. C'est un enjeu prioritaire.
Et si nous y arrivons, ce sera la preuve que notre unité peut surmonter une crise mortifère, déclare Gérard Larcher, qui évoque ensuite les violences de mai et la crise d'identité qui sapent, dit-il, les fondements mêmes que la génération précédente avait construits.
Alors que 3 décennies d'efforts partagés avaient permis d'avancer pas à pas, les événements survenus depuis le mois de mai donnent le sentiment d'un terrible retour en arrière. Les camps se radicalisent, les discours sont parfois à l'opposé des notions de respect et de partage et de dialogue. Beaucoup d'entre vous nous ont fait part de leur inquiétude de voir la violence et la peur reprendre le dessus durablement. Loin de moi de distribuer je ne sais quel bon ou mauvais point, mais nous devons tous constater que nous n'avons pas réussi à empêcher une telle catastrophe par nos décisions ou par nos absences de décision.
Il faut faire prévaloir ce qui unit sur ce qui divise, ajoute le président du Sénat, qui évoque dans les événements de mai une jeunesse qui peine à trouver sa place, les fléaux habituels de la drogue, de l'alcool et des violences, l'instrumentalisation, il faut le dire, dit-il, d'une partie de cette jeunesse. Mais pour Gérard Larcher, les responsables politiques aussi ont failli.
Chacun d'entre nous a l'ardente obligation de faire son examen de conscience, car nous sommes responsables. Je ne parle pas de responsabilité individuelle, mais de responsabilité collective, et je n'exonère pas l'État des siennes. Le temps calédonien ne peut pas se régler dans les bureaux parisiens. Il se définit d'abord sur cette grande terre, du nord au sud et dans les îles. C'est ici que doivent se régler les horloges du dialogue et des événements. Leurs seuls maîtres sont les intérêts de cette terre et de ses citoyens.
La conviction que je suis venu exprimer devant vous, c'est que le chemin ne s'est pas arrêté en mai dernier, déclare Gérard Larcher. Ce chemin se prolonge, mais l'aide de l'État ne suffira pas. Et pour le président du Sénat, la clé a toujours été en terre calédonienne.
Seul ce travail en commun permettra à la Nouvelle-Calédonie de redonner de la visibilité aux investisseurs en favorisant la reconstruction des territoires et dans le même mouvement de réouvrir un espace politique. L'aide de l'État, je le disais il y a un instant, si elle est urgente et indispensable, ne suffira pas à insuffler cette dynamique. La clé a toujours été en terre calédonienne.
Le président du Sénat qui souligne les visions antagonistes qui animent les Calédoniens. Il faut passer d'une confrontation stérile à une conjugaison vertueuse, dit-il en évoquant le socle des valeurs qui avait été adopté il y a quelques années. Pour lui, le Congrès peut être l'un des acteurs du dialogue. Mais il se veut lucide. Votre Assemblée et les Assemblées de province seront renouvelées dans un an. Il annonce des mois de compétition et de confrontation et de confrontation. Et il se permet de faire une recommandation avec solennité. Il faut que les candidats gardent un esprit de construction et de responsabilité parce que ceux qui gagneront les prochaines élections seront les responsables.
Ils seront les redevables de l'héritage historique, vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, de la poignée de main fondatrice entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, et du rôle du Premier ministre d'alors, issu de notre département à tous deux, Michel Rocard. C'est à eux qu'il appartiendra donc de dessiner et de rendre possible une construction institutionnelle nécessairement imaginative dans de nombreux domaines, qui permettra de respecter les deux légitimités qui s'expriment sur le territoire. La légitimité kanak qui s'enracine dans la terre de ses ancêtres et son histoire millénaire, et celle de toutes celles et ceux qui sont venus apporter sur cette terre, après les ombres et lumières de la colonisation, leur labeur et les valeurs humanistes républicaines.
L'Assemblée nationale et le Sénat seront là pour jouer les facilitateurs, déclare le président du Sénat, Gérard Larcher, qui évoque également le discours qu'il avait tenu devant le Congrès en 2016, quand il avait parlé de souveraineté. La souveraineté, tout en ayant une conception qui ne soit pas trop doctrinale, dit-il de cette notion.
Dans notre monde, du Pacifique à l'Union européenne, il n'existe que des souverainetés partagées. C'est un choix qui n'est pas nécessairement binaire et qui peut passer par une construction imaginative et originale au sein de la République, si les Calédoniens le souhaitent, et c'est mon souhait personnel. Je sais qu'un tel projet faisait l'objet, avant ce terrible mois de mai, de discussions intenses, diverses et de nombreux échanges. Le défi n'est donc pas insurmontable. D'autant que la Nouvelle-Calédonie est depuis plusieurs décennies un laboratoire de solutions inédites. Il suffit de sortir de certaines postures qui ne font qu'aggraver inutilement les divisions et trouver le moyen de concilier aspiration à l'émancipation et lien avec la France.
Gérard Larcher qui appelle encore les Calédoniens à ne pas se laisser piéger par les formules toutes faites.
Voilà donc pour ces deux discours prononcés ce matin au Congrès par Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, le président du Sénat. Il y a eu effectivement ensuite des réactions, Elisabeth.
Oui, à l'issue de cette séance solennelle, la présidente du Congrès, Velma Faleo, qui avait accueilli le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, a fait part de sa réaction aux deux discours qui avaient été prononcés.
Une chose très positive, les présidents sont là pour nous aider à reprendre les voies du dialogue. Vraiment, aujourd'hui, on l'a bien vu à travers ce qui a été dit. Effectivement, nous avons vécu des choses dramatiques depuis le 13 mai. Mais on sent bien la volonté des uns et des autres à continuer le chemin ensemble. Et c'est ce que nous retenons. L'État est à nos côtés. Maintenant, c'est à nous, responsables politiques locaux, à faire le nécessaire pour retrouver les voies du dialogue. Depuis hier, je suis très satisfaite des échanges que j'ai pu tenir avec les présidents. Aujourd'hui, il y a une grande séquence, ce sont les bilatérales avec différents groupes politiques. Je pense qu'il est important que chacun puisse s'exprimer, parler aussi de ce qu'ils ressentent, aussi des projets. Et pour moi, le fait aujourd'hui qu'on ait ces deux présidents, c'est historique dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et c'est un signe fort pour nous.
Et de très nombreux élus du Congrès assistaient bien sûr à cette séance solennelle. Ils ont réagi à l'issue de ces deux discours, à commencer par Virginie Rufnacht, chef du groupe Rassemblement.
C'est des discours de haute volée. Je retiens notamment les mots du président du Sénat qui nous propose de passer d'une confrontation stérile à une conjugaison vertueuse. Je pense que c'est la responsabilité des élus de la Nouvelle-Calédonie que de s'inscrire bien sûr, dans le respect de l'expression démocratique des Calédoniens, dans cette voie, nous n'avons pas d'autre choix. Nous ne pouvons livrer la Nouvelle-Calédonie à la violence que nous avons connue. Ce sont vraiment des présidents d'institutions qui apportent toute leur contribution et le poids de la nation à l'aide pour résoudre cette difficulté calédonienne dans laquelle nous sommes aujourd'hui enlisés. Donc c'est véritablement un soutien de poids qui est là aujourd'hui, un discours qui nous a porté, qui nous a engagé à la responsabilité. Et donc c'est une très belle séquence qui s'est déroulée au Congrès de la Nouvelle-Calédonie ce matin. À nous de saisir l'opportunité d'assumer notre responsabilité désormais en tant que responsable politique calédonien.
Réaction également pour le groupe loyaliste de la part de Gilles Brial.
Déjà, ce qui est positif, c'est que les deux présidents soient sur le territoire. Deuxième chose positive, c'est que tous les deux ont condamné les violences du 13 mai et que tous les deux ont demandé qu'il y ait de la justice et qu'il y ait du retour à l'ordre. Ensuite, autre chose positive, c'est la demande un retour au dialogue. Donc nous, on s'inscrit à la fois dans la démarche du retour à l'ordre et du retour au dialogue, mais ça doit se faire sans naïveté. Les conditions de négociation avant le 13 mai, celles d'aujourd'hui, sont plus les mêmes. On a un territoire qui était prospère et en paix. On a aujourd'hui une Nouvelle-Calédonie qui est détruite et qui est plus fractionné que jamais. Donc l'État et les présidents de l'Assemblée ont un rôle à jouer là-dedans, mais on doit le faire avec beaucoup de lucidité. Et donc c'est dans cette démarche qu'on s'inscrit.
Et puis satisfaction également pour Philippe Dunoyer du groupe Calédonie Ensemble.
Les deux présidents ont rappelé le caractère historique de leur déplacement. Jamais, jamais dans l'histoire de la Ve République, des deux présidents de chambre se sont déplacés sur un territoire, ce qui montre à la fois l'importance et la difficulté du sujet, mais surtout leur attachement à trouver une solution avec nous. Et c'est vraiment ce qui se dégage des deux discours. On sent avec les deux personnalités différentes de Mme Braun-Pivet et de M. Gérard Larcher qu'il y a la même envie, la même énergie pour nous accompagner, puisque la solution nous appartient, mais redéfinir ensemble ce que nous étions pas très loin de trouver en 2023 et avant que le 13 mai ne vienne tout casser sur le passage. Donc moi je retiens un message d'espoir. Mais soit un message d'engagement et de travail, mais de partenariat très fort entre ces deux présidents qui ne sont pas avec nous seulement pour trois jours, mais certainement dans la durée. Donc, à nous tous de saisir cette magnifique opportunité.
Réaction également côté indépendantiste avec la réaction de Jean-Pierre Diaoué, chef du groupe UNI, qui retient notamment, vous allez l'entendre, la notion de souveraineté évoquée par Gérard Larcher.
Je crois qu'ils sont restés dans la ligne de conduite qu'ils se sont donnée pour venir rencontrer les élus ici en Nouvelle-Calédonie. C'est de dire qu'ils sont là en tant que facilitateurs. Ils ne sont pas des envoyés du Premier ministre ni du Président de la République. Ils sont là pour voir les élus et voir comment on peut avancer, comment on peut reprendre les discussions. Le Président du Sénat, M. Larcher, a ouvert un peu, je veux dire, des voies et dit qu'on ne peut pas, faut pas s'empêcher d'innover. Et il a parlé de souveraineté. Ça peut être un sujet qu'il faut creuser. Et pour ce qui nous concerne, nous, au niveau du Palika, c'est un discours que l'on entend bien, parce que nous, on parle de souveraineté partagée déjà depuis pas mal de temps, avec une indépendance en partenariat avec la France. Il faut sortir de ces postures et aller de l'avant et de faire en sorte à ce que l'on puisse trouver définitivement un statut. C'est le sens de leur intervention. Ils vont dans tout ce sens-là. Et ils disent qu'il faut, c'est de la responsabilité des Calédoniens avant tout, de trouver l'avenir pour leur pays.
Voilà pour ces réactions, pas encore de réactions de la part du groupe UCF-LNCS, puisque juste après ces discours, les deux présidents de chambre ont entamé des discussions bilatérales et qu'après leur discours, ils se sont entretenus avec les responsables du groupe UC, notamment Pierre-Chaël Tout-Gourou et Daniel Goa.
Et cet après-midi, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet vont poursuivre leur deuxième journée de visite par un déplacement au Mont-d'Or Sud en navette maritime. Sur place, ils vont échanger avec les habitants, mais aussi avec le maire de la commune, Eddy Le Courrieux. Ensuite, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale reviendront en fin de journée à Nouméa pour une rencontre avec les Calédoniens à la mairie. Cette mission que mènent actuellement Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, c'est l'objet de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, que l'on retrouve donc un mardi, puisqu'hier, lundi 11 novembre, était un jour férié.
Ça ne sera pas une énième mission, affirme le président du Sénat. Et on espère que c'est vrai, parce que les missions, les visites présidentielles, ministérielles, parlementaires, les Calédoniens en ont vu passer depuis des années, au point qu'ils sont devenus un peu sceptiques, tant ils ont l'impression que l'on fait du surplace. Combien sont venus écouter, entendre, rencontrer, produire un rapport, sans pour autant trouver de solution à la situation inextricable dans laquelle se trouve la Nouvelle-Calédonie. Mais on nous l'assure, ce ne sera pas une énième mission. Acceptons en l'augure, alors que les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, sont arrivés sur le territoire pour une visite inédite. Jamais les deux présidents de chambre ne s'étaient ainsi déplacés ensemble et ils le font en outre en plein débat budgétaire national. C'est que la situation le justifie et que le dossier calédonien requiert la mobilisation de toutes les institutions, on veut bien le croire. Ils viennent au chevet d'un territoire dévasté, ruiné, déchiré, ravagé par la violence insurrectionnelle et où les urgences sont tout à la fois économiques et politiques. Et dans ce contexte, on s'interroge naturellement sur les objectifs de ce déplacement et sur les résultats qui peuvent en découler. « Nous sommes là pour aider avec humilité », déclare encore Gérard Larcher, qui ajoute qu'ils viennent aider à définir un calendrier et une méthode. Tandis que Yaël Braun-Pivet précise que tout est lié, la nécessaire reconstruction économique est l'indispensable solution politique et que c'est parce que tout est lié qu'il existe une chance de parvenir à un règlement global. Et Gérard Larcher de renchérir. Découpler l'ensemble, c'est aller à l'échec. Clairement, les deux présidents de chambre veulent inaugurer une nouvelle méthode, en étant convaincus que les solutions doivent être préparées en Calédonie et non à Paris. Et le président du Sénat a un credo qu'il a déjà décliné depuis son arrivée, faire de deux rêves un rêve partagé. Il est persuadé que la Nouvelle-Calédonie française et l'indépendance peuvent se conjuguer, que l'on peut trouver un chemin pour aller vers une autonomie très poussée, sans rupture du lien avec la République. Et il propose d'inventer une réponse institutionnelle, originale et pérenne. C'est précisément ce que l'on cherche depuis des décennies. Après que les accords de Matignon aient jeté les bases de cette solution institutionnelle originale, dans laquelle la Calédonie était divisée en trois provinces pour un meilleur partage du pouvoir, avec une province dirigée par les partisans de la France et deux provinces gouvernées par les indépendantistes, dans une forme de fédéralisme interne qui ne disait pas forcément son nom. La mise en œuvre de l'accord de Nouméa et surtout ces trois référendums d'autodétermination mortifères ont remis en cause ce bel ordonnancement jusqu'à cette flambée de violence inédite du 13 mai. Parce que l'on accuse le projet de loi constitutionnelle d'avoir été le déclencheur de cette insurrection, mais c'est faire peu de cas de ce qui l'a précédé. Ces trois référendums en 4 ans qui ont exacerbé les passions et les tensions et sur lesquels se sont fracassés les 30 ans de vivre ensemble qui avaient été patiemment élaborés. Aujourd'hui, après une telle expérience, il est hors sujet de reparler d'autodétermination, sauf à oublier la réponse apportée à 3 reprises par les Calédoniens qui veulent rester français. Mais il est encore temps d'imaginer et d'inventer une solution novatrice. Et si la venue des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale permet d'en jeter les bases, leur mission ne sera pas une énième mission. Elle sera bien plus que cela.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, elle est à retrouver comme chaque semaine sur notre site internet, à réécouter aussi cet après-midi juste après le flash de 16h. Il est 11h55, une première pause dans ce journal après cette première partie du journal consacrée à la visite de Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet. On voit ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Depuis quand tu fais autant les magasins?
J'ai trouvé le secret pour dépenser moins.
Ah ouais? T'as gagné au bingo ou quoi?
Mieux que ça, j'ai découvert l'appli MDF avec le pass MDF. Ça te donne accès à des tarifs avantageux.
Sérieux? T'as chopé ça où?
Vous êtes adhérent de la MDF? Alors téléchargez l'application dès maintenant. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mdf.nc.
Laissez-vous séduire par le nouveau Hyundai Santa Fe hybride, un SUV qui allie élégance et puissance sur la route. Profitez de son espace généreux et de son intérieur luxueux, conçu pour offrir un confort optimal. Avec sa motorisation hybride, le Santa Fe combine puissance et réduction des émissions, idéal pour vos aventures et déplacements quotidiens. N'attendez plus pour vivre cette expérience unique. Rendez-vous dans notre showroom Hyundai à Ducos pour découvrir le nouveau Santa Fe ou réserver un essai sur notre site hyundai.nc.
Votre repas du soir, un déjeuner en famille, un anniversaire entre amis, Cégel, c'est la solution de l'entrée au dessert. Cégel vous accompagne au quotidien comme pour vos grandes occasions. Des surgelés de qualité professionnelle en format pratique et économique. Cégel pour tous les jours et les grands jours.
Rendez-vous au 4, 186 rue Jacques Ekaoué, 4e kilomètre. Le 4, faites vos courses autrement.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
À la suite de l'actualité en Calédonie et une activité cyclonique normale a accru, c'est ce qu'annonce Météo France Nouvelle-Calédonie pour cette année dans le Pacifique Sud. Alors Léana Colombo, à quoi faut-il s'attendre dans le détail pour cette saison cyclonique?
Alors pour le moment, les météorologues annoncent une activité cyclonique décalée à l'extrême ouest du bassin Pacifique Sud, une saison placée sous l'influence de la Niña. Si le phénomène n'est pas encore officiellement déclaré sur le territoire, il devrait l'être dans les prochaines semaines selon les prévisions. Pour rappel, la Niña devrait être courte et de faible intensité. Environ 4 phénomènes cycloniques sont déclarés par saison sous l'influence de la Niña. Et cette année, comme depuis quelques temps maintenant, la saison cyclonique est doublée avec le réchauffement climatique. Thomas Abinoun, météorologue à Météo France Nouvelle-Calédonie, nous détaille les conséquences.
Sous cette double influence, d'abord du fait de la Niña, on s'attend à avoir une activité cyclonique qui va être concentrée sur l'ouest du Pacifique Sud et donc qui va toucher préférentiellement la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Donc on a un risque, on va dire, qui va être entre normal à accru sur la région, un risque renforcé cette année. Et d'autre part, du fait du changement climatique, eh bien, on observe un renforcement des précipitations. Alors ce que nous dit le GIEC, c'est que les fortes précipitations se renforcent d'environ 7% depuis qu'on commence à ressentir les effets du changement climatique. Et ce renforcement des précipitations, il concerne aussi les précipitations cycloniques. Donc, même si on a un phénomène cyclonique, on va dire, de moindre intensité, comme une dépression tropicale, eh bien, ça peut apporter des pluies assez dévastatrices. Donc ça, c'est un risque qu'il faut prendre en compte.
Selon les analyses de Météo France Nouvelle-Calédonie, les cyclones les plus intenses se produisent généralement lors du phénomène El Niño, mais le risque reste entier, même pendant la Niña. Il faut donc s'y préparer. Pour cela, plusieurs phases d'alerte cyclonique sont mises en place par la DSCGR, avec des consignes à respecter, explique le lieutenant Manon Brasseur, chef du service opération et gestion de crise à la sécurité civile.
Sur la préparation de la phase cyclonique, donc c'est important de pouvoir constituer un lot d'urgence, un kit d'urgence, donc avec toute la partie eau, nourriture, trousse de secours. En phase de préalerte, on est sur un nettoyage des abords de sa maison, de son abri. Ensuite, on a les consignes en alerte 1 qui sont justement de pouvoir rentrer à son domicile 2 heures avant le passage en alerte 2 qui sera prédéfini. Et puis ensuite, on est vraiment sur une phase d'interdiction de circuler, justement pour protéger et sauvegarder la population, pour tout simplement derrière pouvoir assurer la sécurité de notre population et de nos administrés. En dernière phase, on a la phase de sauvegarde qui, elle, est une phase de retour à la normale, donc qui est privilégiée pour les acteurs de secours ou les réseaux, justement pour rétablir le retour à la normale du mieux possible.
Toutes les consignes et détails des phases sont à retrouver sur le site internet de la DSCGR. L'année dernière, les météorologues ont constaté 5 phénomènes cycloniques qui se sont formés dans le bassin Pacifique Sud.
Les bateaux de croisière australiens vont continuer d'arriver dans les jours qui viennent à Nouméa. Après un premier touché dimanche, d'autres sont prévus jeudi 14, puis le 17 et le 19. En tout, une quinzaine de bateaux sont prévus d'ici la fin de l'année. C'est évidemment une bonne nouvelle, même si on ne sait pas quelles sont les retombées économiques précises, nous a dit ce matin Jennifer Sigaud. L'ancienne présidente de la CCI est aujourd'hui en charge des croisières pour la Chambre.
Franchement, on n'a pas la moindre idée. Et c'est un vrai problème. On a essayé depuis plus de 10 ans maintenant à faire les études. Le dernier devait commencer justement au mois de mai cette année-ci. Donc ça va commencer très bientôt. Et c'est NC Tourism avec Kidnovi qui organise tout cela. Et on est sur un chiffre qui ne veut rien dire à la fin. Parce que si mes souvenirs sont bons, il y a peut-être 15 ans de cela, il y a eu une étude qui a été faite qui a donné un montant de 3 700 francs par passager de dépenses sur place. Et avec l'inflation, je pense qu'aujourd'hui, on parle de 5 000 par passager. On n'a pas la moindre idée. c'est peut-être autour de cela. Mais même si c'est 5000 francs par passager, quand on a un bateau comme l'autre jour de 4000 passagers, 5000 francs par 4000, c'est quand même 20 millions dans une journée. On ne peut pas dire que c'est un désastre.
Jennifer Segault, invitée du matin sur Radio Rythme Bleu à 7h30. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre site internet. Et puis, comment reconstruire ou rénover autrement? La Biennale de la Construction, elle était initialement prévue du 29 mai au 1er juin dernier. Elle se déroulera finalement le mardi 19 novembre au Théâtre de Lille, Charlotte Coulson.
Quel métier pour demain? Quel avenir pour les matériaux respectueux de l'environnement? Autant de questions qui seront posées lors de cette journée de rencontre entre les acteurs du secteur BTP. La reconstruction sera bien sûr au cœur des débats. L'occasion pour la membre du gouvernement en charge de la construction et de l'habitat, Laura Oumouni, d'apporter des réponses aux constructeurs et leurs employés.
Alors le secteur aujourd'hui est très fragilisé. Cette fragilisation en fait a été renforcée avec les événements du 13 mai. L'objectif aujourd'hui c'est de permettre au secteur de survivre et les acteurs du secteur veulent absolument participer à cet événement pour pouvoir porter leurs difficultés qui aujourd'hui s'accentuent de plus en plus. C'est leur permettre aussi d'avoir de la visibilité concernant ce plan PS2R. Est-ce qu'ils peuvent s'y inscrire ou pas? Est-ce qu'ils peuvent compter aussi sur une participation du gouvernement à sauvegarder leurs entreprises? Parce qu'ils ont bien conscience que la reconstruction ne pourra pas se faire sans eux. Le gouvernement veut être un acteur de la reconstruction pour leur permettre de survivre.
Des échanges qui se dérouleront donc le 19 novembre au Théâtre de Lille et auxquels sont conviés divers acteurs du secteur BTP, mais aussi le grand public.
Midi 2, dans un instant, c'est l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Avec Canal+, vivez les émotions de Noël. Profitez de l'offre exceptionnelle de cette fin d'année. Plus de 85 chaînes, dont toutes les chaînes Canal+, à seulement 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs pendant 2 ans. À vous, le meilleur du sport et le cinéma ultra récent à prix canon. Un petit truc en plus, Mad Max Furiosa, Godzilla by Kong, Vice Versa 2 ou encore Le Comte de Monte Cristo. Tout ça arrive déjà sur Canal+. Alors faites-vous plaisir à seulement 3000 francs par mois. Jusqu'au 31 décembre, pour tout nouvel abonnement de 24 mois à Sélection Plus, moins un coût offert, puis 3000 francs par mois au lieu de 8000 francs par mois pendant 2 ans. Remise également valable pour un abonnement de 12 mois. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com.
La vie est faite d'imprévus, de changements, d'incertitudes.
Bienvenue!
Mais un accompagnement personnalisé offre de nouvelles perspectives. Les défis se transforment en opportunités. Demain se réinvente et vous appartient. Crédit à la consommation, financement professionnel, BCI. Le coup de pouce dont vous avez besoin. Offre commerciale disponible. Parlez-en à votre conseiller BCI.
Toute l'info en 3 lettres. RRB.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Bodin. Et la métropole, à son tour, a commémoré l'armistice du 11 novembre 1918. Elle a mis fin au combat de la Grande Guerre, au cours de laquelle 20 millions de personnes ont été tuées, dont 1 million de Français. Un 106e anniversaire commémoré par le président de la République, Emmanuel Macron, accompagné par son invité d'honneur, le Premier ministre britannique Keir Starmer, pour une cérémonie placée en effet sous le signe de l'amitié franco-britannique. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Le parcours mémoriel débute par un hommage à Georges Clemenceau, puis Emmanuel Macron et Keir Starmer déposent une gerbe devant la statue de Winston Churchill. God save the King et la Marseillaise s'enchaînent. Les drapeaux français et britanniques flottent sur la déesse blindée de la présidence de la République qui remonte les Champs-Élysées jusqu'à la place de l'Étoile. Emmanuel Macron et Keir Starmer effectuent la revue des troupes dans un command-car avant de raviver la flamme du soldat inconnu au pied de l'Arc de Triomphe. Et sous une pluie londonienne, les deux hymnes retentissent une dernière fois interprétés par le chœur de l'armée française.
Pendant cette célébration, Michel Barnier lui était à Meaux, au musée de la Grande Guerre, où il a inauguré une tranchée reconstituée. Dans son discours, le Premier ministre a appelé à un sursaut collectif face aux menaces de racisme et d'antisémitisme. Il s'est aussi adressé au jeune public, l'invitant à s'engager.
Devant des difficultés personnelles, mais aussi face aux grands défis du monde, le changement climatique aujourd'hui, les défis économiques, les inégalités sociales, le retour de la guerre sur notre continent, on peut quelquefois avoir la tentation de se résigner, de s'abandonner à un sentiment d'impuissance. Mais il y a une autre voie qui consiste en effet à faire face à relever la tête et à agir. Je le dis en particulier en m'adressant aux plus jeunes parmi nous. Engagez-vous. Engagez-vous pour le climat. Engagez-vous contre la pauvreté, la précarité, l'isolement. Engagez-vous pour la transmission de notre patrimoine, de notre histoire, notre culture, notre patrie. Pour les plus âgés d'entre vous, engagez-vous dans des mouvements de jeunesse, des associations pour la défense de notre pays. Engagez-vous y compris dans des mouvements politiques. Ce que j'ai appris personnellement, mesdames et messieurs, très tôt, c'est que si vous ne vous occupez pas de politique, c'est la politique qui s'occupe de vous.
Michel Barnier qui s'est dit à cette occasion opposé à la suppression du 11 novembre comme jour férié. Certains évoquent en effet la suppression d'un nouveau jour férié pour renflouer les caisses de l'État. L'actualité en métropole est toujours dominée aussi par la préparation du match de football vendredi matin pour nous entre la France et Israël. Match comptant pour la Ligue des Nations auquel assistera le président de la République. Un message qui se veut fort après les violences antisémites dans les rues d'Amsterdam le week-end dernier, mais le président de la République poursuit plusieurs objectifs. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Le chef de l'État vient officiellement pour envoyer un message de solidarité aux supporters israéliens, selon un proche d'Emmanuel Macron, après, je cite, « les actes antisémites intolérables d'Amsterdam ». Emmanuel Macron veut également faire oublier son absence à la marche contre l'antisémitisme l'année dernière, avec sa présence jeudi soir au Stade de France. « La place d'un président n'est pas dans une manifestation », avait-il justifié à l'époque. Cette déclaration avait engendré un véritable rejet de sa personne dans la communauté juive, se sentant abandonné. Dans une période où les relations entre Paris et Tel Aviv, eh bien, elles n'ont jamais été aussi mauvaises depuis le 7 octobre. Emmanuel Macron tentera aussi de renouer les liens avec l'ambassadeur d'Israël. Enfin, pour le chef de l'État, c'est important de montrer son opposition à la France insoumise, car le parti de Jean-Luc Mélenchon souhaite interdire ce match et au passage souffler sur les braises de l'antisionisme.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Le ministre de l'Intérieur a-t-il raison, selon vous, de maintenir au Stade de France cette rencontre France-Israël en football? Si vous pensez qu'il a raison, vous tapez 1. Si vous pensez qu'il a tort, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Les bourses mondiales, pendant ce temps, sont dans le vert. Elles ont plutôt bien accueilli l'élection de Donald Trump, même les marchés européens, malgré le risque de voir les droits de douane américains augmenter, puisque Donald Trump va poursuivre sa stratégie de l'America First. L'un des effets les plus spectaculaires de ce rebond boursier mondial, c'est l'explosion du Bitcoin. La crypto-monnaie pourrait même franchir pour la première fois la barre des 84 000 dollars. Alors comment s'explique cette envolée? Élément de réponse avec Marco Fodere.
Première raison, Donald Trump a montré une certaine proximité avec le monde des crypto-monnaies pendant toute sa campagne. Il a même lancé lors d'une conférence début août « Ne vendez pas vos bitcoins » comme une promesse faite aux détenteurs de la crypto-monnaie dont l'euphorie se reflète aujourd'hui dans l'envolée du bitcoin. Deuxième raison de cette envolée, le candidat républicain a basé toute une partie de son programme sur la dérégulation, notamment des crypto-monnaies. Un argument de campagne qui nourrit beaucoup d'espoir, estime Andrea Tueni, responsable des activités de marché chez Saxo Bank.
C'est un secteur où il y a encore des barrières à l'entrée. Trump, il a quand même une volonté de casser un petit peu ses codes en termes de réglementation. Et donc ça, aujourd'hui, c'est vu par les analystes et par les investisseurs comme un élément extrêmement positif.
Troisième et dernière raison de cette envolée du Bitcoin, le programme que souhaite appliquer Donald Trump, un programme inflationniste basé sur des hausses de droits de douane et qui pourrait bien faire du Bitcoin une valeur refuge au même titre que l'or. Si Donald Trump applique bel et bien cette politique économique, certains experts n'excluent pas que la plus connue des crypto-monnaies franchisse la barre des 100 000 dollars dans les prochaines semaines.
Margot Fodéré pour Europe 1, midi 9. La dernière page de ce journal, c'est l'actu sport avec du tennis et de la voile dans un instant.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Hey! En ce moment, dans nos hypermarchés géants, c'est les méga maxi promos. C'est la folie des produits en promo.
Oui! Il y a des produits gratuits si on en achète un ou deux ou quatre. Des 50% gratuits, des produits Cagnotte Mon Club. En plus, jusqu'au 17 novembre, il y a deux voyages de rêve à gagner tous les jours. C'est pas dingue, ça? Aujourd'hui, direction Sydney et Melbourne.
Viens vite, on y va.
Jusqu'au 17 novembre, les méga maxi promos, c'est dans nos hypermarchés géants préférés.
Géant Nouvelle-Calédonie, le moins cher. Venez comparer.
Un an de salaire à gagner avec Nestlé.
Jusqu'au 31 décembre prochain, tente de remporter un an de salaire en bon d'achat à dépenser dans tes enseignes préférées.
Pour jouer, achète deux produits Nestlé, écris ton nom, prénom et numéro de téléphone derrière ton ticket de caisse et glisse-le dans l'urne en magasin.
Participe en ligne sur jeunestlé.nc/salaire. Règlement du jeu disponible chez Nestlé et chez Maître Citrita.
Jeu gratuit sans obligation d'achat.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
En tennis, la finale de l'ATP 2024 se poursuit à Turin avec déjà une énorme surprise. Léana Colombo, Casper Ruud s'est imposé en 2-7 sur Carlos Alcaraz qui était apathique.
Et oui, vous l'avez dit, défaite en 2-7, 6-1, 7-5 pour l'Espagnol qui était méconnaissable face au Norvégien. Prochain match pour Alcaraz, déjà déterminant pour la suite du tournoi. Ce sera dans la nuit de demain à jeudi, à minuit contre Rublev. Et en parlant d'André Rublev, le Russe a été dominé ce matin en 2-7 également par Alexander Zverev, 6-4, 6-4. Après cette victoire, le deuxième mondial, vainqueur à deux reprises des Masters en 2018 et 2021, occupe la deuxième place de son groupe.
Et puis de la voile avec le Vendée Globe. Après une journée de navigation, Charlie Dalin, le skipper de Massif, est déjà en tête du classement.
Il devance Sébastien Simon et Sam Goodchild. Le skipper, grand favori de l'épreuve, s'apprête à franchir le Cap Finistère à la pointe nord-ouest de l'Espagne. 40 marins sont en lice pour cette dixième édition du Vendée Globe. Notons que deux avaries ont déjà été signalées par Conrad Coleman et l'un des favoris à la victoire, Boris Herman.